Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galthié.
Pour cette 9e émission, nous allons parler de développement personnel. En psychologie, le développement personnel représente un ensemble de courants, de pensées et de méthodes destinés à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas considéré comme une psychothérapie, même s'il peut y participer. La notion de développement personnel recouvre plusieurs domaines, selon qu'elle est utilisée par des psychanalystes, des promoteurs de techniques New Age, certains courants du coaching, des éducateurs et spécialistes du travail tels que l'Organisation internationale du travail, qui l'inclut dans les buts de l'enseignement supérieur et du travail décent. Les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, phobies, anxiété, déprime, timidité, soit pour améliorer ses performances, mieux communiquer, gérer son temps et s'affirmer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un coach en développement personnel, mais aussi un passionné de sport et notamment de trail. Notre invité va nous expliquer son parcours et pourquoi il a choisi la voie du bien-être. Bonjour Thomas Pelletier.
Bonjour Romain.
Alors, vous êtes natif de Reims, même si vous n'avez pas fait beaucoup de temps dans cette région.
Ah oui, je suis parti à l'âge de 2 ans, donc effectivement, et je n'ai jamais remis les pieds là-bas, donc effectivement, je me considère aujourd'hui comme un Toulousain à 98,8%.
Donc Toulousain, vous avez fait toute votre scolarité sur Toulouse?
Oui.
Donc vous avez fait un parcours de droit?
C'est ça. En fait, à la sortie du lycée, je suis parti dans des études de droit. J'y ai fait 5 années pour avoir un DESS, puisque ça s'appelait comme ça encore à l'époque. Maintenant, on parlerait de Master 2. En droit de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction.
Donc c'était quelque chose d'intéressant ?
Oui. Oui, oui et non. Disons que oui, d'un point de vue, on va dire, construction de l'esprit, l'esprit synthétique, le fait d'avoir vraiment une manière de travailler était très, très intéressante. Après, le droit en lui-même ne m'a jamais réellement passionné. Disons que c'était plus une fin en soi de réussir à faire le plus d'études possible pour avoir le meilleur métier à pratiquer, quoi.
Ensuite, je vois que vous avez aussi un diplôme de coach.
Oui, tout à fait.
Alors, en quoi consiste cette formation et quelles sont les qualifications que vous octroie ce diplôme ?
Alors, cette formation, en fait, elle se déroule en presque 2 ans. On parle de 18 mois, 9 mois d'apprentissage théorique et pratique. Et 9 mois de rédaction d'un mémoire et de mise en application à travers l'acquisition, on va dire, de 10 contrats clients qui nous permettent donc de pouvoir obtenir une certification qui elle-même est reconnue par l'État. Je crois que c'est RNCP2, voilà,
oui, c'est ça,
qui correspond donc à un niveau de maîtrise ou de Master 1. Cette formation, en fait, je l'ai faite au sein d'une école qui s'appelle la Coach Academy, qui est une école nord-américaine, puisque les deux fondateurs sont des Québécois. Et j'avoue que j'aimais bien cette approche pragmatique, puisque ce sont des gens qui sont ancrés dans l'action, qui sont ancrés dans la mise en application des techniques, plus que dans de la théorie. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était d'éviter de parler comme un livre et de me frotter au coaching en tant que tel.
Vous vouliez un peu arpenter le terrain et partir à la rencontre de personnes.
C'est ça. Donc l'idée, c'était de réussir à acquérir déjà la posture du coach, puisque si les techniques sont relativement simples à apprendre, la posture, elle, est très, très compliquée. On parle généralement de posture basse. C'est-à-dire qu'on est dans... Allez, comment dirais-je ? C'est le client, la star. C'est le client qui doit, lui, trouver ses propres solutions, doit trouver sa manière de fonctionner. Il n'y a pas une bonne manière de fonctionner, il y a simplement la meilleure manière pour soi de fonctionner. Et le coach, en fait, est là pour développer cette capacité de son client à pouvoir trouver les meilleures solutions. Donc, à travers une série de questions, à travers des outils, le client, le coaché, a la possibilité de pouvoir réussir à trouver ce qu'il y a de plus efficient pour lui.
Le sport fait aussi partie de votre vie.
Tout à fait.
Donc vous avez été coaché pour le sport ?
Coaché pour le sport. Alors j'ai une carrière de footballeur à la base, depuis que je suis tout jeune, jusqu'à l'âge de 21 ans. Après, donc, les études ont repris un petit peu le pas. Donc j'ai joué effectivement au foot pendant des années. Je me suis un petit peu arrêté dans le sport. Et puis en 2012, accompagnant un ami qui préparait un marathon, je me suis remis à la course à pied. Et ça m'a plu, mais courir sur route, c'était pas quelque chose qui m'apportait tout ce que je voulais. Donc j'ai décidé d'aller courir dans la nature, dans un premier temps, donc dans les plaines toulousaines, enfin les plaines et les coteaux. Et ensuite, j'ai pris la voiture et je suis allé dans les Pyrénées. Et là, je suis tombé amoureux de la course en montagne. Et donc aujourd'hui, je pratique effectivement le trail. Je le pratique dans un club, puisque je suis au CA Balma. Et donc, j'ai 4 entraînements par semaine, plus des compétitions. Donc, c'est presque devenu même un art de vivre.
Ah oui, ça prend énormément de temps.
Alors, ça prend du temps, sauf que lorsque l'on aime ce que l'on fait...
on ne se rend pas compte du temps.
Exactement. Et en plus, j'ai la chance donc, de partager ma vie avec une femme qui aime aussi beaucoup courir. Donc, finalement, c'est...
Une passion partagée.
C'est une passion partagée et c'est génial, quoi.
Et vous pratiquez d'autres sports. Vous avez pratiqué longtemps le football
à, ouais, tout à fait.
À un niveau... C'est important. Vous pratiquez le vélo ?
Oui, alors je pratique le vélo depuis peu de temps, mais effectivement, c'est une activité qui est très complémentaire puisqu'elle permet déjà des phases de récupération, de développer un petit peu ce qu'on appelle la caisse, c'est-à-dire d'avoir une plus grande endurance puisqu'on peut faire des distances plus intéressantes et plus importantes en vélo. Donc effectivement, oui, j'ai développé.
Ça permet d'éviter les chocs que vous pouvez avoir lors d'une course.
Tout à fait.
Ensuite, votre carrière de sportif, vous avez aussi fait l'ascension de diverses montagnes, notamment le Kilimandjaro.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces ascensions ?
Alors, sur l'ascension en elle-même, j'ai envie de dire que c'était quelque chose qui n'a pas été si compliqué que ça puisque j'avais une préparation dans le cadre du trail qui m'a permis de pouvoir monter assez facilement. J'ai simplement subi les effets du mal aigu des montagnes qui en fait a eu la particularité à 4000 mètres d'altitude de me provoquer des gros maux de tête et des crises de vomissement. Donc j'ai pris un traitement sur place et ensuite jusqu'à l'ascension qui est à 5900 mètres, j'ai plus eu de difficultés. Voilà. Après non, ce sont simplement des sommets pyrénéens dans les 3000 mètres. J'ai quelques projets, que ce soit au niveau des Alpes ou même un petit peu plus loin du côté du Népal. Mais pour l'instant, c'est qu'à l'état de projet.
L'Everest n'est pas un objectif prochain.
Non, absolument pas. Non, l'Everest, je le laisse à d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit rester du plaisir. Voilà, ça doit rester du plaisir.
L'Everest ne fait pas partie du plaisir pour ce
moment. Non, je crois que l'Everest est quelque chose qui va au-delà du plaisir. C'est me semble-t-il, le fait de se prouver quelque chose, de pouvoir se dire qu'on a été le plus haut, le plus loin. Et j'aurais peur de perdre finalement ce pourquoi je fais de la montagne, c'est-à-dire la saveur de pouvoir profiter d'un environnement plus que d'atteindre un objectif, un sommet en tant que tel.
Et quelle est cette saveur une fois arrivé en haut et que l'on a cette magnifique vue ?
Alors, pardonnez-moi, je ne vais pas répondre forcément de manière directe à votre question. Ce qui m'a permis de savourer pleinement l'ascension du Kilimandjaro, c'est que je me suis fait une promesse puisque c'était dans le cadre d'un coaching, puisqu'avant d'être coach, j'ai été coaché. Voilà. Et c'est à travers ce coaching que j'en suis arrivé à être coach. Ce qui m'a intéressé avant tout, c'est l'ascension, c'est le chemin parcouru. On retrouve souvent d'ailleurs cette idée-là dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, où, sans vouloir spoiler bien entendu le livre, on se rend compte que c'est vraiment le chemin parcouru qui conduit finalement au sommet, et non pas le sommet en lui-même. Combien de fois on arrive au bout de quelque chose en se disant « ça y est, je l'ai atteint, maintenant qu'est-ce que je fais ?» C'est quoi le prochain objectif? Et ça, je voulais absolument l'éviter. Donc, je me suis véritablement concentré sur tout le chemin parcouru, en essayant de ressentir tout ce qu'il y avait à ressentir sur ce chemin, aussi bien les bons moments que les moments moins plaisants, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre le sommet en étant apaisé et non pas excité. C'est-à-dire qu'arrivé en haut, je me suis rendu compte que j'avais finalement atteint le bout du chemin, mais qu'il y avait encore déjà la descente, parce que lorsqu'on fait de la montagne, on a souvent tendance à minimiser la descente, et généralement, pourtant, quand vous demandez aux gens ce qu'ils ont pensé de leur randonnée, ils disent, dans la descente, j'ai eu mal aux genoux, j'ai les cuisses qui brûlaient. Donc l'idée, c'était, oui, j'ai atteint le sommet, mais ce n'était pas une fin en soi. J'ai envie de dire, de manière peut-être un petit peu ironique, que si je ne l'avais pas atteint, ce n'était pas grave. Bon, c'est faux, parce que j'y étais quand même allé pour ça, mais ce n'était plus une fin en soi. Et donc, peut-être pour la première fois, quand je suis arrivé en haut, je me suis dit, je l'ai fait. Et je ne me suis pas dit, tiens, c'est quoi le prochain? Et ça, c'était une sensation très agréable.
De se dire, on y est arrivé, on a réussi à faire...
J'y suis arrivé et je suis là maintenant, au sommet, dans cet instant présent, et pas en train de me dire, je vais pouvoir checker sur la feuille que je l'ai fait, et maintenant, j'enchaîne avec un autre.
Et au lieu de, comment dire, de choisir à chaque fois une nouvelle activité, de ne pas prendre le temps, là, vous avez vraiment pris le temps de profiter du moment, de l'instant et de l'environnement.
En plus, ce qui était génial, c'est que donc on a fait l'ascension, on est parti à minuit pour être là-haut à 7 heures. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait 1000 mètres de dénivelé et 5 km à faire. Et donc, on a mis 7 heures pour les faire. Là où, en général, dans mes petites Pyrénées, pour ce genre de distance, je mets entre, allez, 1h30 et 1h15. Donc ça montre bien qu'avec l'altitude et avec le manque d'oxygène, l'organisme est complètement obligé de s'adapter. Donc ça aussi, j'aimais bien aussi d'un point de vue introspectif, me rendre compte que en fonction de l'environnement dans lequel on est, et même d'un point de vue développement personnel, c'est très intéressant, donc en fonction de l'environnement dans lequel on est, on avance plus ou moins vite. Le tout, c'est d'avancer. Vous savez, j'ai une phrase auquel je tiens beaucoup, qui est la suivante. Il est urgent de prendre son temps tout en avançant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que ce qu'il faut comme temps pour faire les choses. Voilà.
C'est une sage parole. Alors, par contre, je vois que de votre point de vue professionnel, vous n'avez pas toujours été coach. Vous avez exercé une activité professionnelle dans le monde dans la promotion immobilière.
Tout à fait.
Pendant 10 ans.
C'est ça. Pour finir, jeune manager dans une grosse entreprise française. Et puis en 2015, je ne me suis plus senti à ma place dans cette vie-là, carrément. Ce n'était même pas une histoire de société ou d'entreprise. C'était vraiment dans la vie que je vivais. Elle ne me convenait plus. J'avais le sentiment que ça n'avait plus de sens pour moi. J'avais le sentiment d'être très fatigué. D'ailleurs, je l'étais. Puisque, un petit peu comme on peut l'entendre, en ce moment, je suis tombé dans du surmenage professionnel qui m'a conduit à ce célèbre burn-out. Le burn-out, pour faire simple, je suis rentré à midi chez moi, je me suis assis sur le canapé étant fatigué, et je me suis relevé du canapé que 15 jours plus tard. J'étais complètement exténué, je n'arrivais plus à rien faire. Mon corps m'avait, on va dire, abandonné. Donc j'ai, comme tout un chacun, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir un psy, une psychologue ou quelqu'un plus? Et je me suis retrouvé avec une amie qui m'a conseillé d'aller voir une coach. Bon, d'un naturel un peu sceptique, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé en étant très prudent, et puis je suis tombé sur cette coach qui m'a dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va se voir pour un entretien découverte, un entretien d'exploration, et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. J'ai été la voir, on a défini ensemble un objectif. Donc mon objectif, il était relativement simple, c'était de trouver une reconversion de carrière qui m'irait bien. Et donc on est parti dans un coaching. Et puis, bon, je vous passe les différentes séances. On s'est retrouvés finalement à discuter du métier de coach. Alors j'ai été surpris, agréablement surpris de voir que cette coach me proposait de venir sur ses terres, d'être peut-être un futur concurrent. J'ai trouvé ça très noble de sa part. Et donc elle m'a fait passer un test des 15 compétences du coach pour une auto-évaluation. Et à la fin de cette auto-évaluation, elle m'a dit « Bon, ben, je pense que moi aussi je vous aurais donné cette évaluation-là, donc il me semble que ça pourrait être intéressant que vous y réfléchissiez ». Et donc, la meilleure manière pour moi d'y réfléchir, c'était de sortir de ma zone de confort. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'aller faire l'ascension du Kilimandjaro, ce dont on parlait tout à l'heure. Et c'est entre autres pour ça également qu'arrivé en haut du sommet, j'ai pu ressentir pleinement le besoin, l'envie de changer de vie et de me lancer dans ce projet. Et donc, j'ai eu toute la descente pour en être vraiment sûr, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est comme ça qu'en 2016, j'ai commencé ma formation pour devenir coach.
Voilà. Donc, c'est tout frais quand même votre...
Alors, c'est tout frais, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'estime que je pratique aujourd'hui depuis 2 ans parce que il ne faut pas imaginer ça comme une formation dans laquelle on reçoit des polycopiés qu'on doit réviser et qu'on doit recracher. On n'est pas dans le conseil, on n'est pas dans la formation, on est dans le coaching, c'est-à-dire que l'idée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir cette fameuse position basse qui permet à votre client, déjà à vous, de ne pas vous sentir obligé de devoir prouver que vous savez, puisque vous n'êtes pas là pour savoir, vous êtes là pour écouter, pour réagir à travers des questions. Et donc, par rapport à cela, très rapidement, on est obligé, entre élèves, de se co-coacher. Ensuite, très rapidement, face à cela, j'avais quelques connaissances qui avaient une idée finalement de mon caractère, de la manière dont j'appréhendais les choses dans la vie et qui m'ont fait confiance et ont voulu débuter un coaching avec moi. Donc j'ai envie de dire qu'au bout de 6 mois de formation, je commençais déjà à coacher. Voilà. Et ensuite, donc, tout au long de cette formation, c'est simple, à la fin de la formation, c'était une formation qui coûtait entre 6 et 7 000 euros. À la fin de la formation, je l'avais remboursée.
Ah oui, donc c'était quelque chose d'efficace et qui fonctionnait très rapidement.
Alors, on n'est pas beaucoup à l'avoir remboursé à la fin, mais moi, j'avais décidé que c'était mon objectif, c'était de réussir à... Et donc, ça m'a fait également... Ça m'a obligé à prendre les devants, ça m'a obligé à communiquer, ça m'a obligé à sortir encore une fois de cette zone de confort et aller au feu pour pouvoir savoir de quel bois j'étais fait, quoi.
Donc là, nous avons parlé de votre parcours au travers des formations et des activités que vous avez pu avoir.
Oui.
Nous allons maintenant effectuer une pause musicale avec un morceau proposé par Thomas qui se nomme...
Alors c'est Lift Your Spirit, c'est un morceau d'Aloe Black qui, j'aime bien parce que c'est un gars qui a la pêche et qui, ce morceau ça me donne le sourire et c'est vrai que avec le début du mois de mai que l'on a, ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil dans les oreilles.
Someone who drops in or a face on a telephone screen. When my chips are down and I'm feeling low, who I'm supposed to call? Who gonna help me stand on my feet after I fall? So ladies and gentlemen and boys and girls, this one goes out. Yeah.
to a friend I thought I could trust. He swore he'd keep it on his mama and the Lord above. Over time I've come to find my business all in the street. I'm still trying to forgive that low-down, double-crossing, dirty cheat. So ladies and gentlemen, and boys and girls, this one goes out to the people who help me most in the world. Hey brothers and sisters, hey women and men, I dedicate this to the people who was down since way back when. So live your spirits, don't cheat, do all the good times throughout the years, and just remember, it ain't where you're from, it's where you're at, it ain't who you know, it's who's got your back, who's got your back, who's got your back, it ain't where you're from, it's where you're at, and who's got your back, who's got your back, who's got your back, who's got your back, it ain't who you know, but who knows you, and who's got your back, who's got your back.
Nous sommes de retour avec Thomas Pelletier. Que vous inspire ce morceau ?
Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est libère ton esprit. Donc c'est rien que de l'avoir entendu, là j'ai le sourire, c'est cool.
C'est partagé. Nous allons maintenant parler du cœur de votre métier de coach.
Ouais.
Alors voilà, nous aimerions savoir comment se déroule une séance, tout d'abord.
Ouais. Alors, c'est très simple. Je vais partir du départ. Hein. J'ai donc généralement quelqu'un qui prend contact avec moi, soit par mail, soit par téléphone. Dans tous les cas, on en arrive toujours à une communication téléphonique de quelqu'un qui est finalement un petit peu anxieux, qui se demande à quelle sauce il va être mangé. Et donc, ma première question, qui est une question finalement très simple et généralement qui fait sourire les gens, c'est « En quoi puis-je vous être utile ?» Et donc là, c'est comme le fait de sauter d'un avion en parachute. Les gens sourient et se lancent en disant « Bon, voilà, je vous appelle à ce sujet-là ou à ce sujet-là. » Donc dans ces cas-là, je propose ce qu'on appelle un entretien découverte. Cet entretien découverte, il est complètement indépendant du coaching. Tout du moins, c'est un acte préparatoire du coaching. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une heure et demie, je pose un ensemble de questions pour découvrir un petit peu déjà quelle est la problématique. Donc ça, c'est la première partie. On voit quelle est la problématique, on voit quels effets elle a sur la vie du client, on voit pourquoi est-ce qu'il veut changer ça dans sa vie, s'il a toujours fonctionné de cette manière-là ou si c'est quelque chose qui arrive de manière sporadique. Voilà. Et dans un deuxième temps, on est dans un entretien d'objectif. C'est-à-dire que la deuxième question qui fait sourire le client, c'est « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et là aussi, c'est la grande angoisse, parce que souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc là, pareil, à travers cet entretien-là, on actionne donc un ensemble de questions permettant de pouvoir atteindre à la fin notre objectif, celui de trouver un objectif. Alors cet objectif, il doit être SMART. SMART, ça veut dire quoi ? C'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, compris dans le temps, et je rajoute même un E qui doit être écologique, c'est-à-dire que ça ne doit pas venir mettre le bazar dans la vie du coaché. Le coaching, moi je l'appréhende pas comme un changement, mais comme une mise à jour, c'est-à-dire que l'idée, c'est finalement... de pouvoir faire des choses en consommant moins d'énergie. Alors l'énergie, elle peut être physique, mais elle peut être aussi psychologique. Donc l'idée, c'est de réussir à trouver quelque chose qui permet au client d'être plus léger, d'être plus dans l'instant présent. Donc ça, c'est l'entretien découverte. À la fin de cet entretien découverte, on a mis en place aussi un délai. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, Je veux apprendre à dire non d'ici le 15 juin 2018. Voilà l'exemple d'un coaching qu'on peut mettre en place. Alors, quand un objectif ressemble à celui-ci, bien évidemment qu'on ne va pas passer tout le coaching à apprendre à dire non. On va déjà comprendre pour quelles raisons il y a des blocages. On va essayer de voir s'il n'y a pas des croyances limitantes, s'il n'y a pas des généralisations. Généralisation, c'est par exemple le fait de dire ah ben, « tous les hommes sont des salauds » ou c'est ce genre de choses. Bien. Une fois qu'on a fait ça, donc, on arrive sur le coaching en tant que tel. Et là, le coaching en tant que tel, on est généralement sur 10 séances. On peut faire moins, mais le coaching a cette particularité, c'est qu'il faut qu'il rentre dans le muscle, un petit peu comme en sport. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va montrer à un sportif comment il faut faire le geste et qu'il va le faire 3 fois que derrière, il va réussir à se muscler ou qu'il va réussir à faire bien le geste ou que son corps va s'habituer. Il faut du temps,
de l'endurance.
Et donc, c'est ça que l'on travaille. On travaille généralement la rigueur et la régularité. D'accord ? C'est les deux choses qui reviennent principalement.
Le temps entre chaque séance, en général ?
Alors, donc, partons du principe qu'on est sur 10 séances. Les 5 premières séances sont hebdomadaires. Une fois par semaine, ça permet de garder un certain rythme. Entre chaque séance, je donne des petits exercices à faire qui peuvent être tout simplement l'envoi de SMS ou des rédactions sur des sujets particuliers ou des listes à faire ou des petites actions à mettre en place. À partir de la 5e séance, on fait un point déjà sur le fait de savoir comment se passe le coaching, si on avance, s'il y a des choses qui ont été modifiées dans la manière de faire. Et là, après, on passe, je considère que mes clients deviennent des grandes personnes, on va dire ça comme ça. Et donc là, on passe directement sur des séances tous les 15 jours, ce qui permet au coaché de pouvoir avoir plus de temps, déjà sans avoir son coach à ses côtés. Et ensuite, les actions commencent à devenir des actions où là, véritablement, on va chercher de la régularité et où, bah, petit à petit, vous savez, c'est le principe de Confucius, hein. L'idée, c'est d'apprendre à pêcher et de ne pas apporter du poisson. Donc, moi, mon métier, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'à la fin de mon coaching, je considère que mes clients n'ont plus besoin de moi, ne doivent plus avoir besoin de moi. Donc, l'idée, c'est de vraiment réussir à leur faire gagner en autonomie. C'est la raison pour laquelle je leur demande généralement, après chaque séance, de me faire un compte-rendu de séance, de manière à ce qu'ils écrivent, eux, une sorte de roadbook de leur coaching, leur permettant derrière de pouvoir, à l'envi, plus tard, revenir dans ce roadbook pour aller chercher des choses qu'ils avaient mis en place, qui avaient bien fonctionné, ou de pouvoir, et ça c'est ce qui est le mieux, relire 5 ans plus tard avec beaucoup de nostalgie et un petit sourire le chemin parcouru.
Ça me fait penser un peu au bullet journal à la mode pour pas mal de gens qui pratiquent, où ils notent leurs ressentis au travers de leur emploi du temps, où ils peuvent mettre des petits dessins pour imager un peu leur journée.
C'est ça.
Ça permet de garder un souvenir, de savoir ce qu'il s'est passé, où on en est, ce qui va venir.
Exactement. L'idée, la notion de temps, elle est très importante et très intéressante dans toute forme de coaching. Il y a 2 choses qui conditionnent vraiment le coaching, c'est l'environnement. Alors l'environnement, il peut être géographique, il peut être matériel.
Humain,
spirituel, culturel, et la gestion du temps, vouloir faire les choses trop vite ou alors être toujours en train d'anticiper ce qui va se passer demain. L'anticipation, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elle desserve. L'anticipation, elle est bien dans la préparation, elle est moins bien dans la scénarisation. Voilà. Souvent, c'est quand on anticipe trop, on finit par se servir de son passé pour préparer son futur, ne plus vivre l'instant présent, ce qui peut généralement créer des formes d'anxiété. Voilà. Et généralement, cette gestion du temps, lorsqu'on a des gens qui sont toujours en train de penser à ce qui se passera demain, on a souvent en face de nous des gens qui sont relativement anxieux.
Et quelle est la différence justement avec cette activité de coach qui s'apparente plus à du bien-être qu'avec un psychologue qui est plus dans le cadre d'une thérapie, bien que les deux s'y ressemblent ?
Alors déjà, je dirais que moi, j'ai des clients. Un psychologue a des patients. Donc rien qu'à ce niveau-là, on sent bien qu'on est sur 2 axes complètement différents. Moi, je fais signer des contrats. je ne suis pas un prestataire de service, je suis un partenaire. C'est-à-dire qu'on forme une équipe avec mon client. C'est d'ailleurs souvent pour ça que je préfère parler de client que de coaché. Moi, je porte le nom de coach. C'est un terme que je n'aime pas forcément parce que le terme de coach peut avoir plusieurs sens. Généralement, on voit le coach comme quelqu'un qui sait et qui est capable de guider et d'enseigner. C'est tout sauf ce que je fais. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de confronter mon client à lui-même, de manière à ce qu'à travers des outils et des questions, il puisse réussir à faire sa propre méthode. On sent bien que dans le cadre du sport, ça fonctionne un petit peu différemment. Un coach qui dirait à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, « Bon, ben regarde, tu as des haltères, hein, à ton avis, comment on s'en sert ?» On sent bien que ça pose problème. Pareil pour le coach vestimentaire, pareil pour le coach cuisine, pareil. Il y a du coaching pour tout. Alors, c'est très bien, hein, il faut de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'aurais plus tendance à dire que je pratique de l'accompagnement plutôt que du coaching. Tout ça pour vous dire que j'ai complètement oublié votre question.
Alors, ben, moi aussi, pour le coup. Donc, ma question, c'était la différence justement entre un psychologue et un coach. Et, on vous confond des fois avec un coach sportif, par exemple
Oui, je vais d'abord répondre à votre première question sur la différence. La deuxième chose, c'est que moi, sur l'objectif, je suis sur le comment y parvenir et non pas le pourquoi je n'y parviens pas. Alors, certainement que certains psychologues vont pouvoir dire, mais nous, on a une pratique qui est également sur le comment y parvenir. Et je l'entends, comme je disais, hein, chacun son métier. Je sais que, voilà, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment cette activité d'aller à travers donc, ce questionnement et des outils, chercher à savoir comment est-ce qu'une personne qui veut atteindre en partant d'un point A à un point B, peut y parvenir à sa propre manière. C'est tout. Après, le reste, j'ai pas forcément donc, de compétences psychologiques, j'ai pas forcément de compétences scientifiques. Je sais simplement que la méthode que j'utilise est une méthode qui, vraisemblablement, est efficace.
Alors, voilà. Vous pouvez nous témoigner, par exemple, des retours. Vous avez des personnes qui, par exemple... J'imagine que votre coaching doit durer entre 3 et 4 mois, environ.
Ouais, c'est ça. Oui, bah si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est sur 3-4 mois. Oui.
Et au bout de 3-4 mois, vous avez des personnes qui n'ont pas avancé, pas par rapport à l'enseignement que vous leur conseillez, mais par rapport au fait que dans leur vie, même ça n'arrive pas à les aider. Est-ce que vous avez des personnes qui stagnent ou en général, vous voyez une progression selon le client?
Alors. Ce qui est important, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'objectif qu'on met en place, c'est un objectif qui doit être SMART, le fameux SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et compris dans le temps. Généralement, lors de l'entretien d'exploration, et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà dit à certains de mes clients, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Je ne suis pas compétent en la matière. Il m'est déjà aussi arrivé de me retrouver face à des gens parce que le client choisit son coach, mais le coach choisit également son client. On est, comme je vous disais, sur un
partenariat.
Un partenariat. Donc, si les deux partenaires ne s'entendent pas, ça ne peut pas fonctionner. Après, jusqu'à présent, je suis toujours tombé sur des gens qui étaient motivés. D'ailleurs, les deux dernières questions que je pose à mes clients lors de cet entretien d'exploration, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous atteindre votre objectif? En dessous de 8, je continue à poser des questions parce que je considère que la personne n'est pas prête à être coachée. Et ensuite, quelle est la motivation que vous avez pour atteindre cet objectif? Et là, pareil, en dessous de 8, c'est pas la peine. Donc ça me fait gagner du temps. Et ça fait gagner du temps aussi aux clients, du temps et de l'argent, principalement. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, je suis toujours tombé sur des clients, en tout cas l'accompagnement qu'on a fait ensemble, a toujours porté ses fruits, d'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre. Je me souviens d'une cliente, pour donner cet exemple-là, qui est un exemple tellement révélateur, qui est venue me voir pour une reconversion de carrière. Pendant les 10 séances, nous n'avons jamais parlé de boulot. À la fin de son coaching, elle avait trouvé 3 postes.
Oui, donc
3
en
sociétés dans lesquelles elle s'était associée.
C'est une remise en question bien plus profonde que le simple acte professionnel.
C'est surtout, oui, alors c'est ça. Et puis, c'est surtout que parfois, on pense connaître le problème, alors que c'est simplement l'arbre qui cache la forêt, et que derrière, c'est un simple petit mécanisme à modifier qui permet de pouvoir faire plein de choses.
De se libérer de pas
exactement.
Mal de...
Exactement. J'ai souvent tendance à prendre l'analogie du moteur de voiture dans lequel vous avez une durite qui est percée, et la durite qui est percée, c'est celle qui apporte le carburant. Donc, il n'y a plus rien qui s'allume. Quand on est profane, on croit que c'est le moteur qui est cassé, alors qu'en réalité, c'est juste un bout de caoutchouc à changer. Et se dire que c'est un simple bout de caoutchouc qui tient tout le moteur, généralement, on se dit, mais non, ça doit être beaucoup plus compliqué. Et pourtant, parfois, c'est tout aussi simple que ça. Mais il faut juste aller expertiser et voir que c'était ce truc-là à changer.
C'est évident, des fois, d'expertiser ce genre de petits soucis ou la personne le fait d'elle-même ?
La personne le fait d'elle-même. L'idée, encore une fois, c'est que j'ai une telle confiance dans le processus, qui est un processus en fait qui permet à une personne de décider enfin de s'écouter. Et donc, à partir du moment où vous écoutez, vous entendez plein de trucs. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on se retrouve finalement dans une démarche, dans un processus qui conduit à se dire que tout est possible, que tout est imaginable. Jusqu'à présent, quand on est seul avec soi-même...
C'est smart.
Comment ? Tant que c'est smart, exactement. Tant que c'est smart. Et même, j'ai envie de vous dire que, vous savez, je suis déjà tombé sur des objectifs qui étaient tout simplement le fait de vouloir s'accepter tel que l'on est. Bon, est-ce que c'est smart ? Ça, je ne sais pas.
Ça reste, dépend pour qui.
Ouais, voilà, ça reste quand même un enjeu très important. Mais finalement, c'est, il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'il se passe des choses obligatoirement. Vous savez, dès que vous vous mettez en action, il se passe des choses. Il y a deux manières, je vais vous donner un exemple. Il y a deux manières d'écrire « j'ai de la chance ». La première manière, j'ai envie de dire que c'est celle avant d'être allé voir un coach. Vous l'écrivez avec le verbe « avoir ». J'ai de la chance. Super. Une fois que vous êtes allé voir un coach, vous pouvez l'écrire d'une autre manière avec le verbe aider. J'aide la chance. Ça se prononce exactement de la même manière et pourtant, on est sur deux cas de figure complètement différents. Quand vous aidez la chance, vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous devenez acteur de votre vie. Vous arrêtez de subir. Et moi, le cœur de mon métier, c'est finalement que les gens se disent « Ok, je suis tombé, c'est pas grave, j'ai appris, je me relève et j'y vais ».
L'échec apprend et c'est, cette synergie-là, c'est comme une pierre qui provoque son propre roulement. Ça permet d'avancer sans l'aide de personne et de faire justement les rencontres qui vont permettre cela. Notamment, vous avez fait des rencontres, j'imagine, pour avoir d'autres activités sociales. Vous intervenez dans une association et dans une jeune ONG.
C'est ça, tout à fait.
Alors oui.
Ouais, pour l'association, donc, c'est une association qui s'appelle l'EPES. C'est rigolo. Je pense que c'est mon ange gardien ou ma bonne étoile. C'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a conseillé donc la coach qui m'a fait rentrer dans cette association. Cette personne s'appelle Mylène, je dirais que son prénom. Donc je la remercie déjà. Cette association, c'est tout simplement une association qui a pour objet d'intervenir dans les pôles sportifs de jeunes, des jeunes de 13 à 17 ans, pour la lutte contre le dopage et contre la violence dans le sport. Alors, violence physique ou violence verbale. Et donc, on intervient auprès de ces jeunes Généralement, on fait des ateliers. Et donc, parmi les interventions que j'ai pu faire, je suis allé à Font-Romeu m'occuper des jeunes biathlètes et des skieurs, à Castelmourou pour les footeux, les garçons. Pour les footballeuses de filles, c'était à Blagnac, à la maison du judo. Enfin, voilà. On intervient sur tout un ensemble de sports. Et c'est d'une richesse extraordinaire. On se retrouve face à des jeunes qui ont la tête sur les épaules, qui ont vraiment compris les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière la violence verbale, qui commencent à comprendre aussi, à travers le dopage, que on ne se respecte pas, qu'on ne s'estime pas quand on commence à se doper. Donc ça, c'est très, très, très épanouissant. Ensuite, j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Claire Strid, qui a un projet extraordinaire. Ce projet, à travers une ONG qui s'appelle Skium, c'est d'accompagner les enfants et les adultes, mais principalement les enfants, neuroatypiques. Donc, neuroatypique, c'est quoi ? C'est tous les enfants qui ont des 10, sachant que les plus connus sont souvent les dyslexiques. Ce sont les enfants qui sont considérés comme haut potentiel, qu'on appelle aussi surdoués. Tous ces jeunes qui souffrent de ne pas fonctionner véritablement comme les neurotypiques et qui parfois se retrouvent en échec scolaire alors qu'ils ont des gros potentiel. Et donc l'idée, c'est de créer à travers cette ONG une plateforme numérique qui permettrait de pouvoir avoir un apprentissage à la carte pour ces jeunes qui ont soif d'apprendre, mais qui ont soif d'apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre et qui du coup parfois se retrouvent un petit peu en décalage avec notre système scolaire et qui donc soit s'ennuient très vite, soit perdent le sens de ce qu'ils apprennent. Donc l'idée, c'est de réussir à créer à travers cette plateforme un environnement leur permettant de pouvoir ne pas être stigmatisés et de pouvoir avoir un apprentissage. Et donc pareil, on est toujours dans l'estime de soi derrière tout ça. Donc on est amené là très prochainement à mener une très très grande enquête nous permettant de pouvoir identifier les axes sur lesquels on doit partir. On est à la recherche de partenaires, on est à la recherche de tout un ensemble de choses, de mécènes nous permettant de pouvoir développer cette ONG qui... Voilà, on parle quand même de 25% de la population. 25% de la population, j'y inclus les parents de ces enfants-là qui sont également en souffrance. Parce que lorsque vous avez un petit garçon ou une petite fille qui se lève en classe pour aller décrocher des dessins qu'il ne trouve pas jolis, ou qui prend la parole, ou qui finit par s'ennuyer, et que vous avez les parents qui se retrouvent derrière avec des réflexions du style « votre enfant n'est pas bien élevé » ou « on a du mal à le canaliser », ce genre de choses, c'est très compliqué. Voilà. Donc nous, on va essayer, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir apporter un petit peu de soutien à ces familles-là.
Ce sont deux belles associations.
Merci.
Vous pensez travailler avec le ministère de l'Éducation suite à l'ONG SIOM ?
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je crois que chaque chose doit se faire en son temps. On va déjà, nous, de notre côté, essayer de pouvoir monter quelque chose qui tient la route. Il y a déjà eu des rapprochements avec le ministre de l'Éducation au Québec. Parce que vraisemblablement au niveau nord-américain, ils sont peut-être un petit peu plus avancés à ce niveau-là. C'est très tabou, vous savez. Le problème du surdoué, c'est... déjà, j'aime pas ce terme non plus, vous voyez, j'aime pas ni le terme coach, ni le terme surdoué, mais le terme de surdoué, c'est pas un terme... J'aime bien parler de haut potentiel. Surdoué, on sent bien que c'est quelque chose qui est assez négatif. On n'est pas sur du très doué, on est sur du trop doué. Alors, trop doué dans quoi ? Généralement, les surdoués sont des gens qui ont l'esprit qui est tout le temps en train de bouillonner, qui sont des gens qui fonctionnent de manière un petit peu atypique, qui fonctionnent de manière un petit peu étrange. Je vous donne l'exemple d'un papa avec qui je discute il n'y a pas longtemps. Il a deux enfants, et deux enfants qui sont neuroatypiques, qui sont au potentiel. ils doivent partir faire du camping. Et il dit à ces deux garçons donc, qui ont 6 ans, il leur dit, les garçons, quand on va arriver là-bas, il faudra que vous vous teniez bien. Et il y a un des petits garçons qui dit, pourquoi c'est en pente ? Voilà. Alors, c'est sur le coup, ça, c'est rigolo, parce qu'effectivement, on se dit, c'est mignon, c'est... Mais ce que je veux dire par là, c'est que le neuroatypique, il fonctionne en décalé. C'est-à-dire que, généralement, il ne comprend pas la consigne qu'on lui donne sur un exercice. Il est toujours en train de se poser la question, de se dire, mince, mais ça ne peut pas être aussi simple, la réponse ne peut pas être aussi évidente. À côté de ça, donc, il peut être en échec scolaire. On peut se retrouver face à des gens qui sont généralement étranges, qu'on va trouver soit trop dans l'analyse, soit qui sont des extraterrestres, qui ont un humour particulier, qui sont impulsifs, qui sont vite en colère. C'est des gens aussi qu'on aime bien qualifier ou qui aiment bien se qualifier de caméléons, parce qu'en fait, ils ont compris qu'ils étaient tellement différents des autres qu'ils essayent de ressembler à tout le monde et n'importe qui, ce qui fait qu'ils y perdent leur identité. Ce sont des gens qui sont des idéalistes, on va parler même un petit peu de bisounours, qui rêvent à un monde meilleur, qui, voilà. C'est tout un ensemble de choses qui fait que ces gens-là, finalement, qui sont certainement d'une richesse extraordinaire, qu'on catalogue souvent comme des gens qui sont capables de faire des multiplications à 8 chiffres, alors que ça n'a rien à voir avec le surdoué, qui sont capables d'apprendre des choses très rapidement, ça n'a rien à voir avec le surdoué, c'est simplement des gens qui ont beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité et qui surtout réfléchissent de manière un petit peu différente par rapport aux gens qu'on appelle des neurotypiques. Voilà.
Nous allons maintenant faire une seconde pause musicale avec un morceau qui s'appelle Le combat sans fin d'Ayam et nous retournerons sur le sujet des neurotypiques et de ces enfants à haut potentiel.
Jeune prétentieux, comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure ? Je sens que la colère monte en toi, la haine aussi. Je suis sans défense, prends ton sabre de Jedi et frappe-moi. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Le jeune homme tint promesse. Comme deux jumeaux dans le ventre de leur mère, sommeille en moi les deux différentes facettes de mon caractère. Tantôt l'une prend le dessus, tantôt l'autre, mais de toutes les façons, je n'ai pas le contrôle de dualité dans une guerre interminable pour l'accession au pouvoir dont mon corps sera l'esclave. Et quand l'une d'elles devant l'autre recule, c'est le temple de l'harmonie qui tout à coup bascule. Mais je dois lutter contre les deux à la fois afin d'annihiler le conflit qui me ronge malgré moi. Malgré moi, séparées, elles ne sont rien. Mais elles se déchirent sans cesse jusqu'à ce que l'une sorte enfin vainqueur, me plongeant dans l'excès, en sortir est le but, mais les efforts sont vains, je demeure en quête de sérénité, spectateur et victime d'un combat sans fin, sans fin.
D'emblée, laisse-toi entraîner de mon côté, sans regret pour la force dont tu fus doté. Les barrières tombent et tu fais partie du nombre. Une fois pour toujours, c'est clair, je suis sombre. J'étais hésitant, une créature aux mains moites, mais je suis revenu, un gant noir à ma main droite, détaillant les âmes et les corps comme un zoom, fasciné par la lumière de Wood dans les booms. On nous a toujours fait croire que le clair est bon, et sur les murs dans nos maisons, oui, Jésus est blond. Jésus est blond. Nous avons été pris pour nous contenter de rien, que des gens comme nous n'ont jamais accès au bien. Fini, le maître prend sa place dans les coups. Né d'une multitude enfantée dans la douleur, lors de la création des formes dans les galaxies, les ténèbres étaient antécédentes à l'énergie. 361 degrés de connaissance, le changement de cap fut l'amorce de ma renaissance. Les rites que j'imite font partie des perles dont t'hérites, de poètes sémites, au nom de mon peuple, fils d'Isaac et d'Ismaël, paix sur les enfants blessés d'Irak et d'Israël. Israël. Déformer la circonférence est une perte, bien mieux est d'observer le point au centre du cercle. Dieu,
c'est le Dieu unique d'Akhenaton, le notre père des chrétiens et des musulmans, qui fit ressurgir dans la poussière de Thèbes ses chapelles et ses mosquées.
I'm taking the back, come follow me on a journey to see a for real MC.
Akhenaton.
On a besoin d'expertise aux dégâts qu'il réalise.
Chacun de nous a le droit de décider de sa destinée. On est
here. Here we go, yo. Here we go.
Le rythme qui m'accompagne.
I kicks the mad style, so step off the Frankfurter.
Bow!
Pour la mort du risque.
A dit aux amateurs désireux d'être. Des têtes de chien, pas de quartier, pas de politesse, ça.
J'avance lentement, mais sûrement.
Tirer vers le côté obscur de la force.
J'ai déjà demandé pourquoi ça se passe comme ça.
Vous ne pourrez vous résoudre à me tuer. Il y a un conflit en vous. Quittez votre haine.
Il est trop tard, mon fils. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Il sera ton maître absolu comme il est aujourd'hui le mien.
Vous êtes toujours sur Oxyform avec notre invité, Thomas Pelletier. Donc, nous revenons sur le sujet des hauts potentiels et... ce qu'on peut appeler comme des enfants surdoués, et notamment dans le cadre de votre coaching. Est-ce que vous avez des expériences à nous partager et à nous expliquer comment se déroule vraiment cet aspect haut potentiel dans cet accompagnement ?
Ouais, alors il y a quelque chose d'important déjà à préciser, c'est que moi, le coaching, je pense qu'il est intéressant avec des adultes. Ou alors des jeunes adultes. Il m'arrive de coacher des adolescents, mais le travail est complètement différent. Le coaching tel que je le pratique, c'est un coaching qui va quand même chercher un petit peu d'expérience de vie. Lorsque l'on travaille avec des adolescents, on est plus, on va dire, sur de l'enseignement thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus expliquer les émotions, on va plus expliquer des modes de fonctionnement, on va aller chercher des exemples, mais à 12, 13, 14 ans, on est encore un petit peu jeune pour avoir la présence d'esprit de trouver les solutions par soi-même.
C'est plus de la médiation.
Alors, médiation, je ne parlerai pas de médiation, je dirais vraiment que c'est plutôt de la transmission. On est sur de la transmission de connaissances en prenant bien soin de ne pas tomber dans du dogme, parce que c'est la pire chose qu'on puisse faire avec des jeunes adolescents. Mais on est sur, on va dire, plutôt du développement de sa personnalité, c'est-à-dire qu'on va par exemple parler du sentiment de tristesse ou du sentiment de peur, aller chercher peut-être une explication de la part de l'adolescent, des exemples, peut-être des solutions, des ressources personnelles pour ne pas tomber dans cette peur, des besoins, les obstacles, voilà, tout un ensemble de choses, mais ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Mon coaching, comme je disais, il est quand même beaucoup plus sur des adultes. Et d'ailleurs, ces adultes-là, je les retrouve aussi bien dans du coaching de particulier que dans du coaching professionnel, puisque le haut potentiel est également compliqué à vivre dans le milieu du travail. Vous savez, il y a un dessin là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, où en fait, vous avez un grand verre qui représente l'entreprise rempli d'eau, et vous avez des glaçons qui sont jetés dedans, avec marqué neurotypique et neuroatypique. Et les neuroatypiques n'arrivent pas à fondre dans l'eau. Ils n'arrivent pas à s'intégrer, dans la société. Donc même à travers ces gens-là, il y a des procédés, il y a des choses à mettre en place. Généralement, moi, le coach n'a pas vocation à faire de la publicité, il fait de la communication, mais il ne fait pas de la publicité pour dire aux gens « venez me voir, vous en avez besoin ». Ce sont les clients qui décident d'aller voir un coach. Donc, jusqu'à présent, j'ai, on va dire, quasiment 70% de ma clientèle, indépendamment de ma volonté, peut-être pas du travail que j'ai effectué de rédaction sur mon site ou des articles que j'ai pu mettre en place, mais en tout cas, indépendamment de toute action marketing dessus, j'ai 70% de gens qui sont au potentiel. Alors, au potentiel, soit qui se savent au potentiel, soit qui, à travers le coaching, se découvrent au potentiel, puisque à travers tout un faisceau d'indices, là c'est le juriste qui reprend les termes de l'époque, mais à travers un faisceau d'indices, on réussit à avoir une présomption de haute potentialité. Et donc là, dans ces cas-là, j'invite mes clients à se renseigner, à lire, à écouter des podcasts, des émissions, à pouvoir essayer de vivre au mieux la découverte de cette sensibilité émotionnelle. Puisqu'on est, on est dans le haut potentiel, on est souvent dans de l'émotionnel. On trouvera souvent le HPE, haut potentiel émotionnel, et le HPI, haut potentiel intellectuel. Donc on, même à travers de tous ces gens-là, il y a une constellation folle de variantes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on retrouve souvent, à travers tous ces profils-là, ce cerveau qui est en perpétuelle activité, cette capacité à fonctionner en digression. Alors, ce que j'entends par digression, c'est le principe selon lequel on va commencer à avoir une discussion sur le Canada. Et puis très rapidement, le Canada, ça amène à la neige. La neige, ça amène au ski. Et puis ça amène, le ski, ça amène au fait que l'année dernière, je n'avais pas de barre de toit à mettre sur mon toit de voiture. Ah tiens, au fait, la voiture, il faut que je l'emmène au contrôle technique. C'était quoi la question que tu m'as posée sur le Canada ? Voilà, c'est souvent comme ça que ça fonctionne sur le côté digression. C'est-à-dire que, et donc là, j'ai pris qu'une direction. Hein. Le haut potentiel, il est capable de partir dans plusieurs directions en un centième de seconde. Donc il y a ça, il y a cette espèce de colère sourde aussi, d'impulsivité, puisque vraisemblablement, quand on ne se sait pas au potentiel, on a toujours eu cette volonté de vouloir ressembler à tout le monde pour avoir cette paix sociale, pour être sûr de ne pas être stigmatisé.
Le tout qui dépasse.
Exactement. Et donc, par rapport à ça, malheureusement, on n'est jamais naturel à 100%, on n'est jamais authentique. Donc ça met en colère, ça rend triste de se dire qu'on est obligé de faire plein de choses pour être accepté, alors qu'on aimerait bien pouvoir faire tout simplement ce dont on a envie de faire et rien de plus. Voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Et donc, à travers tout ça, on s'en rend compte pendant les séances de coaching. Et donc, c'est là qu'en sachant qu'on n'est pas anormal, mais uniquement différent, à ce moment-là, ça permet déjà d'avoir fait un grand bout de chemin vers l'estime de soi et vers un mieux-être. Y a une phrase, je pense, qui plaît beaucoup au potentiel. Alors, elle peut plaire à plein d'autres gens, mais en tout cas, pour l'instant, c'est du 100% dans ce que j'ai pu entendre. C'est la phrase qu'il y a sur mon site internet, qui, moi, lorsque je l'ai lue, m'a parlé immédiatement. L'important n'est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres. C'est une phrase de Daniel Tammet qui a le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire que lui, c'est un autiste, mais les autistes un peu ordinateurs.
On connaît. De haut niveau. Quand...
De très très haut niveau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre une langue en une semaine. On est dans le principe un petit peu de Rain Man, pour ceux qui ont vu le film, qui est ce gars qui est capable, lorsqu'une boîte de cure-dents tombe par terre, de donner immédiatement le nombre de cure-dents qu'il y a. Ou de celui qui est capable, pendant qu'il vous parle, de faire un Rubik's Cube sans regarder et de vous rendre les 8 faces. C'est 8 8 ou 12, peu importe, toutes les faces.
Il y a maintenant des Rubik's Cube avec tellement de faces et tellement de formes que voilà. On peut s'y perdre. Et maintenant, nous allons parler bouquins.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors, nous allons commencer par le choix littéraire de l'invité.
Ouais, alors c'est un bouquin donc qui, on va dire que là on revient dans ma pratique sportive, même si c'est très lié finalement à ma pratique professionnelle, c'est un bouquin qui s'appelle Born to Run.
C'est un bouquin de passion alors.
Ouais, définitivement. C'est un bouquin en plus que j'adore parce qu'il y mêle un roman et une approche journalistique, scientifique, presque médical, anthropologique, historique. Enfin, c'est un concentré de plein de choses. Et pour faire simple, le pitch, c'est un journaliste qui va voir son médecin parce qu'il a une douleur au genou quand il court. Et son médecin lui dit, écoutez, faut que vous arrêtiez de courir, faut que vous arrêtiez le sport. Pour vous, ça y est, c'est fini, c'est foutu, votre genou, il est en vrac. Et ce gars-là se dit, ok. Et puis, au détour d'une lecture, il tombe sur un peuple qui vit au Mexique. Alors, je ne sais jamais le dire, je crois que c'est les Tarahumas. C'est un peuple, en fait, qui vit au milieu des montagnes, qui est un peuple un peu secret, et qui a la particularité d'organiser chaque année une course durant laquelle il court 300 km sans s'arrêter. Et il court en plus en espèce de... je sais pas comment on appelle ça, de sandales. Enfin, vraiment, on est très très loin de nos chaussures de running moelleuses et confortables.
Avec ce mail orthopédique et tout le.
Exactement. Tout voilà. Toute l'assistance en fait technique. Et donc ce gars-là décide de partir là-bas pour découvrir ce peuple et en fait au fur et à mesure de son aventure, il y découvre bien évidemment plein de gens. Il finit par découvrir ce peuple et il finit par découvrir leur manière de vivre, leur manière de fonctionner. Il se retrouve à appréhender finalement la course à pied non plus comme quelque chose comme le fait de courir après le temps, mais comme le fait de pouvoir faire un travail introspectif sur soi-même et de pouvoir finalement se concentrer sur ses sensations. Pour résumer le bouquin et arriver directement à la fin, ce gars-là, à la fin, est capable de courir 80 km dans la montagne sans aucune douleur. Voilà. J'ai aimé la simplicité, j'ai aimé le retour aux sources. Il fait bien entendu référence à plein de coureurs qui sont des coureurs d'ultra-trail, en expliquant comment ces gens-là ont réussi à se dépasser, tout en ayant toujours du plaisir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est une histoire vraie. Donc tout ça, ça s'est réellement passé. Lorsque l'on va voir sur Internet les différents personnages, ils existent. J'ai trouvé que c'était aussi, finalement, le fait de se rendre compte qu'à partir du moment où on prend du plaisir, on est peut-être plus performant que lorsqu'on recherche la performance.
Effectivement, c'est une sage parole. Alors moi, pour mon conseil de lecture, j'ai choisi de Paul Ekman, Je sais que vous mentez. C'est un livre de développement personnel qui a pour but de vous dévoiler les indices de comportement et les signaux qui permettent de détecter avec exactitude les mensonges. Le FBI et la CIA utilisent les découvertes de l'auteur. Alors cet auteur est un éminent psychologue, pionnier et expert dans l'étude des émotions et du langage non-verbal. On va maintenant parler course à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors, ce dimanche 13 mai 2018, nous avons le trail de Mondat-Vézin. Le départ est à 10h et vous propose une course de 7 ou de 14 km. Ensuite, nous avons peut-être Thomas qui va nous faire part d'une des prochaines courses dont il aura l'occasion de faire.
Alors, en réalité, j'en ai deux dont je veux parler. La première, c'est une course que je prépare avec ma chère et tendre depuis 2 mois déjà, qui se situe au Pays Basque, à Saint-Étienne-de-Baïgorry, qui s'appelle le Sky Trail. Et donc, on est engagé sur une course un peu particulière, puisqu'elle se fait en binôme. C'est un 2 x 25 km, c'est-à-dire qu'on part pour faire 25 km et 1000 mètres de dénivelé le vendredi matin, et le samedi matin, on remet ça pour 25 km et 1000 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est aux alentours du week-end de l'Ascension, c'est ça ? Donc aux alentours du 10 mai. Et ensuite, j'ai une course, j'accompagne un ami qui, lui également, lorsqu'il a vu que j'avais fait le Kilimandjaro, a décidé de le faire, donc il est allé faire cette ascension-là. Et à la suite d'un repas, il s'appelle Herman, et donc à la suite d'un repas, on a décidé, lui et moi, que je l'accompagne sur un marathon en montagne. Enfin, un marathon, c'est même un peu plus, puisqu'on est sur le Luchon en étau trail, donc on est du côté de Bagnères-de-Luchon, pour cette superbe course, qui aura lieu donc le 6 et 7 juillet 2018. Et donc on est sur cette épreuve qui est un 45 km avec 2800 mètres de dénivelé. Et donc l'idée, c'est qu'il s'est lancé ce challenge d'y arriver. Et donc on va faire cette course ensemble pour pouvoir franchir main dans la main entre copains la ligne d'arrivée. Voilà.
Alors, juste à titre indicatif, je sais qu'un marathon en moyenne se court entre 3 et 4 heures, voire un peu plus.
Ouais.
Un 45 km en montagne, ça doit être beaucoup plus long.
Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle des premiers ? Est-ce qu'on parle des derniers ?
Alors voilà, pour une fourchette moyenne.
Une fourchette moyenne, elle met 7 heures.
Ah oui, donc c'est le double.
Les meilleurs peuvent mettre 4 heures. Sauf que très rapidement, en fait, on est sur... On est là véritablement sur du simple au double comme on peut l'avoir sur marathon, c'est-à-dire 2 heures, 4 heures. Ben là, on est sur 4 heures, 8 heures. Voilà. Donc, en général, on va dire que c'est entre 6h30 et 16h, et 7h30 pour le ventre mou du peloton. Voilà.
D'accord.
Et encore, là aussi, tout dépend des conditions météo. Parce que autant sur un marathon, s'il pleut, on avance, même si effectivement c'est désagréable. En montagne, quand il commence à pleuvoir et qu'on est dans une descente avec des cailloux glissants, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite que si on était sur du plat. Il est même parfois rigolo de constater qu'il y a des montées qui se font plus rapidement que les descentes.
Oxyform. Oxyform.
Nous remercions Thomas Pelletier.
Merci à vous.
Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Zac à la technique. La semaine prochaine, nous recevrons un diététicien nutritionniste et ancien sportif de haut niveau. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.